En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Comment le cinéma italien s'est-il imposé dans le monde du travail ? Comment s'est-il différencié des autres cinémas ? Françoise Thibault, professeure émérite de droit public à l'Université de Poitiers et correspondante de l'Institut, revient sur ce thème lors de la deuxième rencontre « Droit et cinéma, regards croisés ». Organisée par la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de La Rochelle, en partenariat avec le Festival international du film, le Centre Intermonde et l'Espace culture de l'Université de La Rochelle, cette rencontre a rassemblé pour la deuxième fois les universitaires et le Festival local de cinéma les 28 et 29 juin 2009. Elle permet notamment de débattre autour d'un thème. Celui choisi pour l'année 2009 fut le travail. Sujet d'actualité, il constitue le fil conducteur des échanges de ces deux journées, en s'appuyant sur la projection de trois films. Canal Académie vous retransmet ce colloque en trois parties. Vous allez écouter la deuxième intervention que nous vous proposons lors de cette rencontre. Françoise Thibault, professeure émérite de droit public à l'Université de Poitiers et correspondante de l'Institut, a choisi le cinéma italien pour débattre sur le thème du travail. Le cinéma italien, qui a sûrement produit les films les plus proches de la réalité du travail, dû par son contexte social de l'époque. Retrouvez tout de suite Françoise Thibault.
Tout d'abord, très brièvement, je voudrais vous dire que je suis très heureuse d'être de nouveau parmi vous, dans cette ambiance chaleureuse, débonnaire, mais studieuse, et remercier nos deux artistes en organisation et pensée culturelle, le terrible duo Calamity Jane et Cat Ballou, qui mènent à bien nos réunions. Dans beaucoup de gaieté d'ailleurs. Pour revenir au thème du cinéma italien, lien social, il faudrait commencer par dire que si le cinéma français est celui du populisme romantique, avec entre autres comme star Jean Gabin ou Michel Simon, le cinéma italien est sûrement celui de l'ouvriérisme pathétique, notamment dans les années d'immédiate après Seconde Guerre mondiale, avec le néo-réalisme, plus encore peut-être que la production britannique des mêmes années, avec ses mineurs gallois en colère et ses chômeurs enragés. D'ailleurs, incidemment, peut-être pourrait-on rajouter, pour ceux d'entre vous qui ont vu The Servant, que le cinéma britannique est le cinéma qui a produit le plus de films consacré à la domesticité et au domestique, tout simplement parce que la société britannique a été pendant très longtemps totalement dépendante de ses domestiques. Ça se termine avec le couronnement de la reine Elisabeth à peu près au milieu des années 50 à cause des impôts. Mais pendant des siècles, la société britannique a été, il suffit de lire les romans britanniques de Thackeray, de Jane Austen, on comprend tout de suite. Alors, le cinématographe est un lien social. Si le cinéma nord-américain est si fantasmatique et tourné vers le rêve, comme nous avons eu un avant-goût hier à travers la comédie, c'est parce qu'il sort d'un contexte social où sans doute presque tout est illusion. Les cow-boys étaient des brutes souvent stupides, réduits à ce travail parce qu'ignorants et dévoyés. Le gardien de vache, un télo, est plus qu'improbable. Rien à voir avec Gary Cooper ou Paul Newman. Les chercheurs d'or étaient des pauvres types refoulés aux confins de la Fédération, la plupart du temps des insoumis, souvent au bout du rouleau, bourrés d'alcool, qui s'entretuaient pour un peu de poussière brillante, ou bien des escrocs, carrément, ou bien des entrepreneurs exploitant cette masse humaine informe à leur strict profit. Sinon, que peut-on dire ? C'est que le way of life américain n'est crédible que dans un contexte de plein emploi. Et l'épisode sur les comédies le démontre. Le centre du sujet, finalement, c'est être aisé, l'argent. Et le contexte est plutôt friqué, je dirais. Donc sinon, si cette recette-là ne marche pas, il faut s'enfuir avec Henri Fonda sur les routes poussiéreuses des raisins de la colère, ou bien danser jusqu'à la mort avec sa fille et Michel Sarrazin dans un marathon de la danse destiné en 1932 au laissé pour compte de la crise grâce au beau film de Sidney Pollack sorti en 1969. Mais au-delà de ces mystifications de la puritaine Amérique, revenons plutôt aux Européens, qui ont sans doute produit les films les plus proches de la réalité du travail parce que, justement, ils ont fondé leur civilisation sur le travail, de Colbert à Marx, de Stuart Mill à Proudhon. En fondant leurs systèmes sociaux sur le travail et l'enrichissement qu'il peut rapporter, y compris la démocratie libérale, car la liberté d'entreprendre est un enrichissement, ils ont entraîné tout un contexte créatif. Littérature, peinture, architecture, artisanat industriel, musique et bien sûr le cinéma qui a la part belle dans ce créneau de la représentation sociale. La sortie des usines Lumière en 1895 en est un flamboyant symbole, même s'il a été un peu trituré, qu'un des tout premiers films qui ait été montré en public soit une sortie d'usine, je trouve que c'est quand même assez costaud. Les cinéastes italiens ont donné du travail et surtout de l'absence de travail une vision totalement tragique et la plus continuellement insoluble, souvent d'ailleurs sur le mode comique. Vision tragique pour deux raisons. La première, c'est que depuis la nuit des temps, il y a peu de travail en Italie. Cela vient de la configuration même de la péninsule et les périodes fastes sont dues économiquement à des activités d'imagination, à une créativité qui feint d'acclimater des conditions naturelles et économiques désastreuses. Alors, vers quoi se tourne la péninsule ? Vers l'art, tous les arts, l'invention dans tous les domaines, de Da Vinci à Marconi, dans le commerce, la banque, les voyages au long cours, l'import-export, les cathédrales, les palais, l'opéra, la couture, la musique, la verrerie, la pasta, les gelati, les raviolis. Et tout cela donne l'apparence de l'opulence à peu de frais et ne requiert pas beaucoup d'exécutants, rarement une main-d'œuvre réellement abondante. Disons, jusqu'à l'avènement du grand machinisme, pendant le règne du Duce, notamment avec la Fiat, la fabrique italienne d'automobiles de Turin. Dans ce contexte, quelques mécènes et quelques patrons, qui sont également princes, sénateurs et députés, et quelques centaines, rarement davantage, d'exécutants, de pauvres bougres, et le monde croit qu'on roule sur l'or. Jusqu'à pratiquement l'après-Seconde Guerre mondiale, l'économie italienne a été fondée sur la domesticité, elle aussi, mais une autre domesticité que celle britannique. La seule possibilité d'ascension sociale passait par la religion, les ordres religieux. Il suffit de connaître l'enfance de Mussolini, élève surdoué, mais plus que pauvre, chez les jésuites, où il allait à l'école pieds nus parce qu'il n'avait pas de chaussures, Verdi chez les lazaristes, Toscanini chez les dominicains, la liste est innombrable. C'est pourquoi la démarche ouvrière vers le communisme fut tellement scandaleuse et anachronique. Prôner la réussite sociale et collective en dehors de l'Église catholique était non seulement inimaginable, mais aussi une offense à Dieu. La deuxième raison de la tournure du cinéma italien, encore plus profonde, bien ancrée, est que ce peu de monde, cette élite, ces patriciens, dominent une plèbe informe, muette, mal nourrie, mal logée, analphabète, pressurée, souvent terrorisée, à laquelle le travail est accordé avec parcimonie et dans des conditions qui sont souvent proches de l'esclavage, que le patriarcat péninsulaire n'a jamais oublié. C'est pourquoi il y a tant de tricheries dans la société italienne, tant de combinazioni, et la présence de la mafia. elle ne pouvait naître que là, dans un pays où, en dehors du patriarcat officiel et du travail officiel, des autorités parallèles offrent d'autres conditions de travail, de vie, de mode de vie, moyennant une soumission encore plus aliénante, la mafia ou la mort, l'omerta ou le chômage. C'est aussi simple que cela. Ce qui est bien dans le cinéma italien depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis Mussolini en gros, c'est qu'il a osé montrer cette situation qui perdure, quelle que soit l'époque et quel que soit le domaine. Il l'a décrit avec réalisme et non sur le mode génial, avec art, inventant un style narratif et photographique d'une grande élégance. On est pauvre, on est esclavagé, mais on est élégant. Le noir et blanc du néo-réalisme italien, c'est un peu le Bauhaus du cinéma contemporain. Ces gens-là nous ont appris à photographier, à cadrer, à jouer avec le noir et blanc. Le grand règne du cinéma italien, c'est le règne du noir et blanc. Noir et blanc du néo-réalisme, et puis, après la guerre, l'Italie est dans un tel état, une telle pauvreté, que cela mérite d'être montré pendant la décennie 50. Le cinéma décrit dans une recherche esthétique, mais avec humour, refusant de se plaindre, de dramatiser, de s'apitoyer. Ensuite, on passe, dans les années 60, à la comédie italienne, continuatrice de la Commedia dell'arte, dont l'âge d'or se situe dans les années donc 60-70, succédant au néo-réalisme. Le message est clair. Les Italiens nous disent à travers leur cinéma, nous étions détruits, mais nous avons surmonté l'obstacle. Et maintenant, même chômeurs, nous rions et nous sommes très heureux de rire. Car cette fausse valeur qui est le travail, nous la traitons avec la meilleure de nos armes qui est la dérision. Je vous citerai quelques exemples, pas énormément. D'abord, je ne suis capable de parler que de ce que je connais modestement. Et en suivant le plan de nos stratèges, c'est-à-dire travail primaire agricole, travail secondaire d'usine, et activités tertiaires. Pour le travail agricole, sans remonter trop loin, je pense qu'il faut que nous commencions par Risa Mère de Giuseppe de Santis en 1949 avec les inoubliables cuisses de Silvana Mangano. C'est une histoire de voyous des villes sans travail, Vittorio Gassman et Ralph Vallon qui s'entretuent, et qui trouvent dans leur fuite refuge chez les mondine, ces femmes qui pataugent dans les rizières de la plaine du Pô pour repiquer le riz dans des conditions de quasi-esclavage. Plus tard, nous aurons les incontournables frères Olmi, avec notamment le très primé Arbre au sabot de 1978, sans star et sans aucun militantisme, c'est ça qui est assez admirable, un quasi-reportage sur le sort des métayers et des ouvriers agricoles de Lombardie au début du XXe siècle. C'est un quasi-documentaire, un film tragique et plein de sens. Dans la même veine, en 1976, mais avec Burt Lancaster, De Niro et Depardieu, nous avons le besogneux mais flamboyant 1900 de Bertolucci, beaucoup trop long. L'histoire de deux garçons nés le même jour de 1900. L'un, fils de paysan, sera forcément ouvrier d'usine, donc anarchiste et militant communiste, donc un voyou. Bon. L'autre, fils du propriétaire, fera chrétiennement un riche mariage et deviendra sénateur. Moins connu, mais très beau, c'est un film que personnellement j'aime beaucoup, sur la paysannerie de Sicile, tragiquement écartelée entre pouvoir officiel et mafia, crevant littéralement de faim pendant l'entre-deux-guerres, nous avons de Schittieri, le préfet de fer, où, en réponse à la révolte paysanne, Des paysans de Ganji, qui est un petit bourg à l'intérieur des terres, vivent dans des cavernes. Le préfet envoie la troupe, les assiège, les enfume pour qu'ils se rendent. C'est un film terrible qui a été peu diffusé en France parce que jugé trop subversif. Pour le travail industriel, disons la lutte ouvrière et l'absence de travail, il y a pléthore. L'Italie, n'oublions pas, étant très patricienne, est également très imbibée de communisme. Hein, les deux s'équilibrent, si l'on peut dire. Donc, peut-être que cette aventure ouvrière commence avec le terrible voleur de bicyclette de De Sica en 1949. Sans star, considéré comme un des meilleurs films du monde. Un ouvrier au chômage se voit offrir un job de colleur d'affiches qui le sauvera de la misère s'il a une bicyclette. Il vend le peu qu'il a pour cet achat, notamment un poste de radio en bakélite avec les gros boutons, vous savez, qu'on trouve encore dans quelques greniers. Mais à peine acheté, le vélo lui est volé. Et après l'avoir vainement cherché avec son petit garçon, il volera à son tour un vélo. On voit l'Italie lépreuse, détruite, ravagée de l'époque. Miracle à Milan, du même De Sica, en 1950, est une fable qui se déroule dans les bidonvilles et parmi les chômeurs, dans laquelle la croyance au surnaturel console des déboires du syndicalisme. Il y a bien sûr tous les films très engagés de Francesco Rossi qui s'étalent de 59 à 80 dénonçant la condition ouvrière, mais ils ont assez mal vieilli et je vous les épargnerai. En 60 et 61, Pietrangeli d'une part et Pasolini d'autre part nous donnent l'un à Adua et ses compagnes qui rassemblent Signoret et Mastroianni, dans lequel des filles, des sœurs, des épouses séparées de chômeurs se prostitue pour sortir de la misère dans un premier temps et essaie vainement de trouver du travail. Elles finissent par s'unir et ouvrir une trattoria, comme quoi la pizza permet de remettre sa petite culotte. De Pasolini, nous avons le jubilatoire et très triste finalement à Catone qui raconte l'histoire d'un type incapable de travailler. À la fin de tribulations plus grotesques les unes que les autres, ayant définitivement renoncé, il prononce le très fameux « Je suis bien » qui clôt ce chapitre de l'usine et du travail à la chaîne. En 63, Monicelli, avec les camarades, dépeint la vie ouvrière, le début du communisme clandestin et les grèves sauvages dans les tréfileries de Turin, au début du XXe siècle. C'est un très beau film avec Mastroianni et aussi Bernard Blier et François Perrier, qui dépeint sans être dépourvu d'humour la misère, les balbutiements de la lutte ouvrière et la revendication qui nous intéresse, celle d'un peu de droit dans les rapports de travail à l'usine. La Califa d'Alberto Bevilacqua, en 71, plutôt desservie par une trop belle Romy Schneider, moi j'ai jamais vu des ouvrières comme ça, narre le monde des grèves et des luttes ouvrières également, ainsi que Metello de Bolognini en 75, qui retrace lui aussi les grèves de Florence en 1900. Dans l'assez médiocre, la classe ouvrière va au paradis d'Elio Pietri en 72, il y a une scène tout à fait étonnante. Le héros incarné par Gian Maria Volonté est dans son usine le roi du boulon. Et il est une démonstration de ce que Madame la conseillère a évoqué brièvement ce matin, c'est-à-dire les cadences. Il est le roi du boulon, celui qui va le plus vite sur la chaîne. Mais un jour, un accident lui enlève deux doigts, il ne peut plus travailler et on le renvoie sans autre forme de procès. Alors arrive une période affreuse, ses camarades s'unissent pour essayer de le sauver et au fond de son désastre, une fois rentré chez lui, désespéré, cet homme qui n'a plus de travail énumère le nombre d'heures de travail qu'il a dû accomplir pour se payer ce qu'il a autour de lui. Et alors il énumère ça, il dit, pour ce vase affreux, 40 heures, pour ce plat qui ne sert à rien, qui est moche comme tout, 120 heures, c'est assez hallucinant. Mais les années 70 étant ce qu'elles sont, ça finira plutôt dans la solidarité ouvrière et il finira par être réembauché. Et puis il y a le monde du chômage, de la débrouille, des petits boulots, de la rapine, du vol. Que nous dit le cinéma italien des années 70 ? C'est le monde de l'usine, c'est le chômage, c'est l'absence de droits, de règles de droit, de règles du jeu qui font de nous des voleurs et des clochards. Le plus flamboyant connu du monde entier est sans doute Vittore Scola, Brutti, Porchi, Cattivi, affreux, sale et méchant. En 76, avec ses personnages et ses scènes hilarantes et pathétiques à la fois. L'argent de la vieille en 72 de Comencini qui réunit Alberto Sordi, Mangano toujours et Bette Davis, dans lequel un ancien ouvrier devenu chiffonnier intermittent un peu douteux essaie de dépouiller une vieille richissime en jouant au scopone scientifico. On n'y voit aucun prolétariat, c'est même assez chic, mais le parcours des protagonistes est suggéré d'une manière extrêmement violente. Enfin, il y a, comment dire, la classe moyenne, ou les mieux nantis. Classe moyenne des fonctionnaires, des enseignants, des soi-disant intellectuels, on est toujours soi-disant intellectuels, bon, des commerçants, des militaires aussi, et le cinéma italien ne leur fait pas de cadeaux. Tous ces gens sont dépeints dans leur médiocrité farceuse, leur inaccomplissement écartelé entre un conservatisme bigot et un socialisme terrifié par les rouges. Eux aussi, très souvent, sont au bord de la misère, ajoutant à leurs maigres revenus le rapport de petites escroqueries, de rapines sordides. Cela commence probablement avec Il Vitelloni ou Il Bidone de Fellini en 52 et 54, puis les 19 sketchs de Dino Rizzi, des monstres en 63, et puis il y a les 12 sketchs des Nouveaux Monstres, ouvrage collectif de Rizzi, Scola, Monicelli en 78, où on atteint des sommets dans ce qui est justement notre propos. Comment échapper à la règle de droit ? Nous nous sommes tant aimés de Scola en 74, où mes chers amis de Monicelli en 75 décrivent des vies étriquées, médiocres, où toute illusion est envolée, l'incapacité institutionnelle, la léthargie des classes moyennes, la dérision de la vie telle qu'elle est. Les militaires ne sont pas mieux lotis. Avec le Scola de 68, nos héros réussiront-ils à retrouver leur ami perdu en Afrique, avec Sordi, Manfredi? Ou bien nous voulons des colonels de Monicelli en 73, histoire lamentable d'un coup d'État manqué jusqu'au burlesque, avec Ugo Tognazzi et Nino Manfredi. Caligula, péplum italo-britannique de Tinto Brass en 77 avec Peter O'Toole et Sir John Gould marque un virage car c'est le moment où le cinéma italien commence à se prostituer. Il décrit la décomposition de l'Empire romain, mais en fait c'est une métaphore de l'Italie moderne avec ses corruptions et ses blocages identiques. Rien n'a changé depuis Jules César. Les terribles films de Nanni Moretti, Le conformiste de Bertolucci, La famille de Scola, Les lunettes d'or de Montalto décrivent un insurmontable ennui ainsi qu'une impuissance totale à rendre le monde meilleur. La haute société, les patriciens, les nantis en prennent également indirectement plein la tête avec quelques Antonioni des années 60 et même les Fellini, souvent très métaphoriques. Ou bien, dans le Sud, on décrit, en Sicile notamment, les mafieux, les nobles désargentés, avec lesquels on rit beaucoup d'ailleurs, mais qui vendent leur liberté contre un riche mariage ou un billet pour l'Amérique. Car c'est bien là qu'il faut en venir. À partir des années 80, le cinéma italien part en Amérique. Les grands pourvoyeurs, Carlo Ponti, Dino De Laurentiis, deviennent hollywoodiens, emportant avec eux toute la Cinecittà. Et la génération des grands films des années 50 à 70 vieillit et s'éteint. Le cinéma social italien se vide complètement de son contenu et de sa signification. Il devient américain grâce aux banquiers et aux producteurs venus d'Italie. C'est pourquoi il se mettra à faire du social avec De Niro, Pacino, les Coppola et tous les autres. L'âme sociale du cinéma italien s'est vendue de l'autre côté de l'Atlantique et il ne reste plus que quelques ouvriers idéalistes pour danser au bal d'Ettore Scola, qualifié de micro-monde social par notre ami Jean Tullard.
Vous venez d'écouter Françoise Thibault dans le cadre de la deuxième rencontre Droit et Cinéma Regards Croisés, organisée à La Rochelle les 28 et 29 juin 2009. Vous pouvez également écouter les deux autres retransmissions sur ce colloque avec les interventions de Jean Tullard de l'Académie des sciences morales et politiques, débattre sur le contrat du tueur, un contrat comme les autres. Et Marie-France Mazard, conseiller doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation, sur le lien de subordination dans l'œil de la caméra. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.